Alors, Seigneur, nous te rendons grâce pour cet instant que tu nous donnes encore une fois d'être rassemblés, même à distance, pour plonger nos regards dans ta parole. Ce mois-ci, on l'a mis à part des autres pour sonder davantage tes Écritures, pour s'intéresser encore davantage sur la question de ta parole et sur l'importance qu'elle devrait revêtir pour chacun d'entre nous dans notre quotidien, dans notre marche avec toi et dans notre ouvrage pour l'avancement du royaume de Dieu. Alors nous prions, Seigneur, que tu nous parles ce soir, que tu nous permettes de saisir peut-être certains aspects qu'on ne réalisait pas quant à ta parole, que tu nous permettes, Seigneur, de sortir de cette rencontre avec une meilleure compréhension de ce que tu veux pour nous, de ce que tu as pour nous et de ce que ta parole est supposée représenter pour nous tous. Donc, bénis ma sœur là où elle est ce soir, bénis mon frère, bénis toute personne qui peut-être écouteront en différé cet enregistrement, qu'une même grâce nous soit accordée, tant sur le moment direct qu'en différé, que ton esprit nous dirige et nous conduise. Nous t'avons prié dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors encore une fois, bienvenue à cette rencontre du mercredi soir 4 août 2021. Je ne suis pas le pasteur Sergio. Vous aviez l'habitude d'avoir le pasteur Sergio pendant plus d'un an maintenant, où il nous a entretenus sur une étude sur le livre de Marc qui avait pour titre Servir Dieu en temps de défi. On arrive maintenant à près de 15 mois, un peu plus même que 15 mois, dans cette période de pandémie, mais 15 mois aussi pour nous en tant qu'Église où on a pris un temps accru pour enseigner, pour partager la parole, pour s'assurer que la congrégation et toute personne qui voudrait se joindre à nous pour ces études puisse avoir une nourriture spirituelle adéquate. Alors, on a lancé au tout début de la pandémie en mars 2020, on a lancé les bénédictions matinales, donc des rencontres à tous les matins, du lundi au vendredi, où on prend une petite demi-heure pour étudier la parole, pour la méditer et essayer de voir qu'est-ce que cette parole peut nous dire pour la journée qui débute. On a par la suite transféré toutes nos réunions qu'on avait, mercredi soir études bibliques, réunions de prière qu'on avait dans les cellules, dans les différents foyers. On les a catapultées sur nos diffusions Internet. On a ajouté à cela des cours avec le pasteur André le lundi soir. Tout cela pour s'assurer de vous donner une dose maximale, une dose optimale de la parole de Dieu. Mais à la fin de ce trajet ou de ce périple, là où on en est rendu aujourd'hui, la question qui vient régulièrement dans nos pensées, c'est: mais qu'est-ce qu'on fait avec toute cette parole? Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces enseignements qui nous sont prodigués? En fait, qu'est-ce qu'on a fait avec tous ces enseignements qui nous ont été prodigués? Et on s'est rendu compte que malheureusement, régulièrement, lorsque on se met à étudier la parole de Dieu, ça devient parfois une certaine routine, parfois tout simplement une habitude. Pour certains, ça a été l'occasion d'être connectés avec leurs frères et leurs sœurs, ce qui est une bonne chose en soi, mais c'était tout simplement l'occasion d'être connectés et non pas l'occasion de profiter pleinement de la parole qui était enseignée. Alors, ce mois-ci, on a pris comme orientation de revenir sur la question de la Bible, de revenir sur la question de la parole de Dieu et de voir quelle devrait être notre attitude par rapport à cette parole, d'une part, et deuxièmement, de faire ressortir à travers les Écritures les différentes images qu'on donne par rapport à la parole de Dieu. Parfois, on a des choses entre les mains et on ne se rend pas compte de ce qu'on a entre les mains. Je disais il y a quelques jours cette image de Moïse à qui Dieu va apparaître et il va lui demander: qu'as-tu entre les mains? Et Moïse va dire: j'ai mon bâton. Et Dieu va lui dire: lance le bâton va se transformer en serpent, il va le ressaisir, le bâton va reprendre sa forme initiale, mais tout cela pour vous dire que vous avez des choses entre les mains. Vous ne réalisez peut-être pas ce que Dieu veut faire, on ne réalise peut-être pas ce que Dieu nous a donné, mais assurément, on a des choses entre les mains. Et les différentes illustrations qu'on va faire sortir ce mois-ci concernant la parole de Dieu, on en est déjà, je crois, à une quatrième ou à une cinquième qu'on va aborder dans les prochains jours. Tout ça, c'est des images qui vous amènent, qui nous amènent à réaliser l'importance, la richesse et aussi le côté merveilleux de cette parole que nous avons entre les mains. Alors, dimanche, ce qu'on fait, c'est qu'on étudie toutefois notre attitude par rapport à la parole de Dieu avec l'étude de la parabole du semeur. Comme je le disais dimanche, ce titre-là est pas mal erroné parce que 99% du texte est plutôt basé sur le terrain plutôt que la semence ou le terrain plutôt que le semeur. Alors, le bon titre pour cette parabole, si j'en étais l'auteur, ça serait la parabole des terrains. Et tout au long de ce mois, le dimanche, et on reprend ça le mercredi, on étudie méthodiquement cette parabole du semeur pour voir quel type de terrain nous sommes ou quel type de terrain nous pouvons être à l'occasion et qui nous empêcherait de bénéficier totalement de la parole de Dieu. Alors, dimanche, on a utilisé une des trois versions de la parabole du semeur qu'on retrouve dans Luc au chapitre 8. Et c'est ce même texte qu'on va reprendre ce soir. Le mercredi soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre l'étude du dimanche en essayant de l'approfondir. Et j'ai délibérément omis de vous dire certaines choses dimanche pour que dans notre deuxième partie, vous puissiez aussi en bénéficier. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crûrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix: Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Et là, on va au verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Verset 15, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Alors que Dieu puisse bénir sa parole ce soir. Dimanche, on a vu quatre points importants. On a vu tout d'abord que on nous dit peu de choses sur le semeur. En fait, le chapitre 8 de Luc, dans les trois expositions de cette parabole qu'on retrouve dans Matthieu au chapitre 13, dans Marc au chapitre 4 et enfin, comme on l'a lu ce soir, dans Luc au chapitre 8, le passage dans Luc est le passage où on nous dit le plus de choses sur le semeur. Et on ne nous dit pas grand-chose. On nous dit foncièrement, et c'est écrit textuellement, le semeur ou un semeur sorti pour semer sa semence. C'est le verset 5. Un semeur sorti pour semer sa semence. C'est comme si le Seigneur tenait à ce qu'on comprenne que le semeur a effectivement fait ce qu'il devait faire. Il a fait ce qu'il devait faire au niveau de son occupation et il a fait ce qu'il devait faire avec ce qu'il avait entre les mains. Un semeur se doit d'avoir de la semence et assurément, un semeur qui a de la semence se doit de semer cette semence. Je sais, c'est redondant et je vous explique souvent qu'en français, on n'est pas supposé faire ce genre de redondance, mais la Bible elle-même le fait. Et je crois que c'est intentionnel pour qu'on comprenne qu'un semeur doit semer et qu'un semeur doit répandre sa semence. En fait, lorsqu'on parle de la semence, et le verset 8 va nous le dire, le verset 11 plutôt va nous le dire, la semence est la parole de Dieu. Si on retourne à cette image de Dieu qui demande à Moïse, « Qu'as-tu entre les mains ?» Si Dieu nous regarde aujourd'hui et nous demande, « Qu'as-tu entre les mains ?» Chacun d'entre nous avons reçu la parole de Dieu. Chacun d'entre nous, dans nos capacités, dans notre faculté à recevoir cette parole, nous avons cette parole entre les mains. Vous allez me dire, je ne la saisis pas pleinement, mais il y a une partie que tu as saisie, il y a une partie que tu as compris en tant qu'enfant de Dieu. Et cette partie est entre tes mains. Vous savez, une des erreurs qu'on fait lorsqu'on parle d'aller témoigner, c'est qu'on essaie de prouver des choses, on essaie de s'équiper pour être capable de débattre, pour être capable de sortir tout un tas de discours bien posés, bien rangés. Mais ce n'est pas le travail du témoin. Un témoin va partager ce qu'il a vu, ce qu'il a expérimenté, ce qu'il a vécu. Lorsqu'on va en cours et qu'on est appelé comme témoin, on n'est pas appelé à dire ce que nous pensons qui s'est passé. Nous disons ce qui s'est passé, ce que nous avons vu, ce que nous avons vécu, ce que nous avons expérimenté. On n'est pas là pour débattre, on n'est pas là pour émettre tout un tas de théories. On est là pour partager ce que nous avons connu. Lorsqu'on parle de la parole de Dieu et de notre rôle de témoin, voire de notre rôle de semeur, puisque cette parole est entre nos mains, nous ne pouvons pas partager autre chose que ce que nous avons expérimenté. Et avec les années qui passent, je me suis rendu compte que la meilleure façon de ne pas être freiné dans notre témoignage, la meilleure façon pour qu'on ne nous fasse pas taire, c'est de parler de ce que nous avons vécu. À ce moment-là, les gens ne peuvent pas nous dire « tu es en train de raconter n'importe quoi ». C'est mon vécu, c'est mon histoire et c'est la seule chose que je peux partager. Et lorsque le Seigneur a envoyé ses disciples, il leur a dit d'être ses témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Être un témoin, c'est avoir vécu quelque chose et partager cette chose. Être un semeur, c'est regarder ce qu'on a entre les mains, cette semence, et la répandre. La raison d'être de la semence, le premier point qu'on a vu dimanche, c'était que cette semence doit porter du fruit. Lorsque le semeur plante sa semence, lorsque le semeur répand sa semence, c'est dans un seul objectif. C'est qu'éventuellement, après une saison ou après un certain temps, il soit capable de récolter le fruit de cette semence. Lorsque la parole de Dieu nous est placée entre les mains comme une semence, ce qui est espéré, ce qui est attendu par Dieu, c'est que nous semions effectivement cette semence et qu'avec le temps, elle rapporte un fruit en retour. Donc, lorsque on dit que la parole de Dieu est une semence, nous devons comprendre que la seule façon que nous puissions avoir des fruits, c'est si cette semence est planté. Il y a des gens qui veulent des fruits et des fruits et des fruits, mais qui ne veulent pas passer par le processus de semer. Tu ne peux pas avoir de fruits sans que tu sèmes. C'est vraiment cette loi divine qui est de la semence et de la récolte. Le fait que tu plantes et que tu récoltes ce de quoi tu as planté. Alors, lorsqu'on parle de la parole de Dieu qui est placée entre tes mains en tant qu'enfant de Dieu, qui est placée entre mes mains en tant qu'enfant de Dieu, si je veux avoir des fruits, il faut donc que j'utilise cette semence. Cette semence qu'est la parole de Dieu que je sème. Sans savoir comment le processus de transformation de cette petite graine va se transformer en un fruit ou en une céréale, je ne sais pas comment ça se passe. Et ce n'est pas à moi de savoir comment ça se passe. Mon seul travail, c'est d'être le semeur que Dieu veut que je sois et de répandre cette semence. Mais l'objectif principal de la semence reste et demeure de produire du fruit. La semence, c'est l'item principal du travail du semeur. Un semeur qui n'a pas de semence ne peut pas faire son travail. On aurait beau travailler la terre, on aurait beau labourer, retourner la terre constamment, on aurait beau arroser et arroser et arroser. Si la semence n'est pas là, il nous manque l'ingrédient principal de notre travail. En tant qu'enfant de Dieu, on devrait avoir cette attitude par rapport à la parole de Dieu comme étant l'instrument principal de notre travail, l'instrument principal de notre œuvre en tant qu'enfant de Dieu et en tant que serviteur de Dieu. Si tu es effectivement un semeur, l'ingrédient principal qui est placé entre tes mains, c'est la parole de Dieu. Et la question, c'est que vais-je faire avec cette semence? Est-ce que je la considère effectivement comme la base de mon travail? Si effectivement cette semence m'est primordiale, m'est importante, à ce moment-là, je vais veiller sur elle. À ce moment-là, je vais m'attacher à cette semence. Je ne suis pas un agriculteur. Mes grands-parents l'étaient. Mes grands-parents, côté paternel comme côté maternel, avaient de gigantesques jardins. Année après année, ils travaillaient la terre, ils replantaient, ils récoltaient de nouveau. Mais de mon côté, j'ai pas le pouce vert. En fait, je suis même capable de tuer, d'assécher un cactus. Donc, ça vous explique à quel point je ne suis pas un cultivateur. Par contre, je comprends une chose. Ce ne sont pas toutes les semences qui ont la même qualité. Ce ne sont pas toutes les semences qui ont les mêmes facultés, les mêmes richesses. D'une même semence ou d'un même type de céréales, on peut avoir des semences qui sont très chères, très riches, qui produisent énormément, et on peut avoir des semences qui sont pauvres, qui ne produisent que très peu. Ce sera du blé qu'on va retrouver de part et d'autre, mais un des blés va être beaucoup plus riche, va fournir davantage parce que la semence qu'on a utilisée était de meilleure qualité. Nous avons entre les mains la plus merveilleuse, la plus glorieuse, la plus grandiose de toutes les semences. Nous avons la seule semence qui a une portée éternelle. Nous avons entre les mains la possibilité de changer la vie éternelle des gens qui nous entourent. Dieu a placé entre nos mains ce qui permet d'avoir des fruits qui vont durer jusque dans l'éternité. Certains essaient de s'enrichir ici-bas sur terre en ne réalisant pas que ces richesses ne les suivront pas dans l'éternité. Certains essaient d'asseoir une certaine compagnie, une certaine famille, une certaine prestance en ne comprenant pas qu'au jour de leur décès, ils ne l'emporteront pas avec eux dans l'éternité. La seule chose que nous pouvons amener avec nous dans l'éternité, c'est ce que nous faisons pour Christ. Ce vieux cantique que je rappelais dernièrement, un hymne en anglais qui disait « Rappelle-toi que ce qui compte, rappelle-toi que ce qui va durer, c'est strictement ce que tu fais pour Christ et uniquement ce que tu fais pour Christ. » La seule semence, le seul travail que tu peux amené avec toi dans l'éternité, dont les fruits vont te suivre dans l'éternité, c'est le travail que tu fais pour Christ. Sème, mon frère, et ne cesse pas de semer. La semence est donc l'item principal de notre travail. La parole de Dieu devrait être le centre de notre travail, le centre de notre existence. Un semeur, c'était le troisième point ce dimanche, un semeur doit obligatoirement sortir pour exécuter son travail. Je vous expliquais que c'est très difficile de planter du blé dans votre salon. Vous avez un salon avec un tapis, vous avez du bois franc, vous avez du carrelage, vous avez beau répandre de la semence dans votre salon, cette semence n'est pas dans le terrain pour qu'elle puisse croître. Ici, la Bible nous explique clairement que le semeur est sorti. Il est sorti de chez lui. Il est sorti tout au plus de la grange dans laquelle se trouvait initialement cette semence. Cette semence, il l'a trouvée quelque part, dans un hangar, dans une grange. Et il a pris cette semence, il l'a amenée avec lui, il est sorti dans les champs et c'est là qu'il a répandu sa semence. Certaines personnes aiment rester à Bethel. Bethel, c'est le mot hébreu pour la maison de l'Éternel. Et j'aime l'Église. Et on devrait tous aimer l'Église puisque l'Église est l'épouse de Christ. C'est celle qu'il prépare à sa rencontre et qui va régner avec lui pour l'éternité. Donc, assurément, il nous faut aimer l'Église. Mais il nous faut comprendre une chose, que les autres de nos concitoyens, que les autres personnes qui constituent notre entourage ont aussi besoin de se greffer à la fiancée de Christ, qu'ils ont aussi besoin de se greffer à l'Église. Et ces gens-là ne se trouvent pas pour l'instant dans l'Église. Pensons strictement à où nous étions avant de rencontrer le Seigneur, où nous étions avant que nous venions à la connaissance de Christ. Nous étions à l'extérieur de la bergerie, si on prend l'image des croyants comme étant des brebis. Si on prend l'image du croyant comme quelqu'un qui navigue dans sa vie et qui voyage, on était à l'extérieur de la demeure, à l'extérieur de la maison. Pour que nous puissions entrer dans la maison, on a eu besoin que quelqu'un vienne à notre rencontre et partage avec nous la parole du salut. Comment pourrions-nous à notre tour rester à la maison et ne pas sortir pour partager l'Évangile? Cette semence se doit d'être plantée à l'extérieur de l'Église. L'Église doit apprendre que son travail principal se passe à l'extérieur des pourtours de son rassemblement, des pourtours des murs de son bâtiment. Le travail principal de l'Église se fait à l'extérieur du rassemblement des saints. Lorsque nous allons en tant que témoins, témoigner, lorsque nous allons en tant que semeurs, semer. Mon frère, ma sœur, on est resté trop longtemps à l'intérieur de l'Église et il y a des âmes qui sont passées autour de nous et qui n'ont pas entendu parce que nous étions concentrés sur nous-mêmes. Le semeur est sorti pour semer. Et c'est de l'extérieur de sa grange, de l'extérieur de sa demeure que sont venus les fruits. Et c'est une notion que nous devons comprendre aussi. Enfin, dimanche, on a expliqué que le semeur doit accepter de répandre sa semence. Il y a des chrétiens qui aiment tellement la parole de Dieu, et encore là, je suis un étudiant de la parole de Dieu, je me maintiens dans l'étude de la parole de Dieu, j'apprécie le texte biblique, je le chéris, je le médite à tous les jours, je l'enseigne, je l'étudie, je l'apprends, je le partage. Et ça, c'est la notion importante, je le partage. La semence ne fait rien, ne produit rien si elle reste dans le sac. La semence n'apporte pas son fruit si tu ne la répands pas autour de toi. Tu peux avoir le désir de porter des fruits. Tu peux avoir le désir de récolter éventuellement des fruits, mais il n'y aura aucune récolte sans que la parole soit répandue autour de toi. Tu ne ramasseras ou tu ne ramèneras de fruits à la maison jamais tant que tu n'auras pas accepté de répandre autour de toi la semence qui est placée entre tes mains. Ça, c'était ce qu'on a vu dimanche. La semence comme étant cette graine qu'on va planter dans la terre pour éventuellement récupérer un fruit. La semence, lorsqu'on regarde le terme grec qui est utilisé, va aussi nous amener dans une autre tangente. Lorsqu'on utilise le terme « semence » dans la version grecque, le mot qui est utilisé, c'est le terme « sperma ». Pour ceux qui prennent des notes, « S-P-E-R-M-A ». Oui, c'est de là que vient effectivement le terme « sperme ». Lorsqu'on parle du semeur, c'est un mot de la même famille, « speiro », « S-P-E-I-R-O ». Et régulièrement, ce terme va revenir dans le Nouveau Testament, mais on ne s'en rend pas compte parce que la traduction en français va utiliser le mot « postérité ». Lorsqu'on parle de postérité, c'est le même mot que « semence » en grec. En fait, on parle effectivement du fait de reproduction, du fait de donner la vie. Et là, c'est la pensée que j'aimerais partager avec vous ce soir. Lorsqu'on parle de la semence, sperma en grec, on parle donc de cette source de vie qui est transmise d'une génération à l'autre. Cette semence que nous recevons de la part de Dieu, qui est source de vie pour tous ses enfants, mais aussi pour tout homme et toute femme en général. Nous devons comprendre quelque chose. La source de vie de tout être humain, c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit que c'est par la puissance de sa parole, par la puissance de ses mots, que toutes choses ont été créées. Il a dit que le jour soit le jour fut. Il a dit que le soleil soit le soleil a été. Il a dit que l'eau se sépare de la terre et l'eau s'est séparée de la terre. Il a dit que les animaux soient et les animaux ont été créés. Il a dit que l'homme soit et l'homme a été créé. La parole de Dieu a cette puissance de générer la vie, de générer une création. Lorsque nous regardons notre vie que nous avons entre les mains, nous n'avons cette vie que parce que Dieu a parlé à notre sujet. Il a dit que Florent soit et Florent a été. Il a dit que Claude soit et Claude a été. Il a dit que Daniel soit et Daniel a été. Il a dit que Nathalie soit et Nathalie a été. Il a dit que Chantal soit et Chantal a été. Et ça, c'est une notion importante pour toi et pour moi. Ça veut donc dire que tu n'es pas le fruit du hasard. Tu es le fruit de la parole même de Dieu. Tu dois ta vie à Dieu qui a mentionné ton nom de toute éternité pour que tu existes. Malheureusement, on peut passer bien du temps, voire une vie complète, sans reconnaître qui était la source de notre vie et de qui nous tenions notre vie. En tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas passer outre cette notion-là. Je dois savoir que cette vie m'a été donnée par Dieu, a été suscitée par Dieu, a été pensée et insufflée par Dieu. Et la grande question, c'est, mais que vais-je faire de cette vie? Lorsqu'on parle de la parole de Dieu comme étant semence et comme étant source de vie, ça veut dire que plus je suis proche de cette parole, plus je suis à même de vivre pleinement cette vie. Plus je m'en éloigne, plus la mort me guette. Sachant que la vie éternelle à laquelle nous aspirons vient aussi de la parole de Dieu. Cette parole qui nous mène vers la repentance, cette parole qui nous mène vers la rédemption, vers le salut, cette parole qui nous mène vers le chemin de l'éternité en présence de Dieu pour toujours. Ça reste cette parole qui est notre guide, cette parole qui insuffle chez toi et chez moi encore aujourd'hui la vie. Lorsqu'on parle de la semence, lorsqu'on parle de la notion de sperma, on parle donc du partage aussi de la nature du papa vers ses enfants. Je ne ferai pas un cours de biologie et un cours de microbiologie, mais on sait tous d'où vient un bébé. Le bébé tire à moitié ce qu'il est de sa maman et à moitié ce qu'il est de son papa. Dans le cas de Dieu, nous tirons tout ce que nous sommes de lui. Nous tirons de notre Père d'ici-bas sur terre une partie de sa nature. Même si on grandit, puis pendant un certain temps, on veut être différent de papa, on se rend compte avec les années que même si tu essaies d'être différent, les gens vont vous regarder puis vont dire « Ah, c'est ton père ». Pendant longtemps, j'essayais d'être moi unique. Je blaguais à l'occasion et disais « Non, moi j'ai été adopté ». Mais plus je vieillis, plus je suis obligé d'admettre pour moi-même que je ressemble à mon père. Et ce n'est pas un défaut, je lui ressemble. Pourquoi? Parce que je suis dans sa lignée. J'ai en moi sa nature. Ce qui est bien, ce qui est moins bien. J'ai de ma mère sa nature. J'ai tiré d'eux ce que je suis aujourd'hui. Et génération après génération, c'est ce qui se passe. Pensons à cette semence que Dieu place en nous. C'est d'elle que nous tirons la nature de Dieu en nous. Plus je médite la parole de Dieu, plus je m'approprie la parole de Dieu, plus je suis inondé de la semence de Dieu, plus la nature de Dieu est présente en moi. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui, malheureusement, vous a parlé et vous a dit « Mais je pensais que tu étais chrétien. » C'est une des situations les plus embarrassantes qu'un croyant peut rencontrer. Le fait d'être confronté à quelqu'un qui ne croit peut-être pas à Dieu, mais qui t'a entendu parler de lui et qui, à un moment donné, est troublé par ce que tu fais, par comment tu agis, par comment tu parles, et qui te dit « Mais je pensais que tu étais chrétien. » Si je veux effectivement bien représenter mon Père céleste, encore faut-il que sa nature m'habite à chaque jour davantage. Et un des moyens pour que cette nature divine t'habite davantage, c'est que sa parole soit effectivement présente dans ta vie davantage. À une époque, j'avais quelqu'un qui donnait un cours sur la conduite entre les garçons et les filles, entre principalement les garçons chrétiens et les filles chrétiennes, en leur disant « voici comment vous devriez vous comporter ». Et il disait « essayez de toujours placer une Bible entre vous deux, parce qu'il est difficile de passer au-dessus de Jean, de Jacques, de Pierre, de Paul et de tous les autres pour faire ce qu'il ne faut pas faire ». Effectivement, si la parole de Dieu est présente en toi, assurément, ça va guider ton comportement. Effectivement, si tu te rassasies quotidiennement de la parole de Dieu, cette parole va inonder tes propres paroles. Cette parole va probablement changer ta façon de voir les choses, ta façon d'agir, ta façon de réagir. Pour que la nature de notre Père soit présente encore davantage en nous, encore faut-il que sa parole soit aussi plus présente en nous. Dernier point. Si cette parole est effectivement source de vie, ça veut donc dire que, ayant cette parole en toi, tu es toi aussi capable d'amener la vie autour de toi. Au même titre où cette parole a été source de vie pour toi, maintenant qu'elle t'habite, maintenant que dans tes pensées elle règne, maintenant qu'elle habite ta bouche et ton vocabulaire et ton parler, Cette parole peut aussi se répandre autour de toi et avoir le même effet chez tes voisins qu'elle a eu chez toi. Comprenons que lorsque le Seigneur place sa parole en nous, c'est pour avoir du fruit. Et lorsque cette parole est source de vie, c'est donc pour que la vie se répande autour de nous. Assurément, le monde ne le comprend pas. Assurément, le monde ne le reconnaît pas. Mais la parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu nous fait comprendre que cette même source de vie qui t'habite jaillit pour raviver, pour aviver, pour redonner la vie à ceux qui t'entourent. Est-ce que tu comprends l'importance de la parole de Dieu aujourd'hui? La parole de Dieu est tellement importante parce que c'est elle qui va te permettre de porter des fruits. Mais la parole de Dieu est tellement importante parce qu'elle est à la base de ta vie. Elle est la source de ta vie. Et de surcroît à cela, cette parole est aussi source de vie pour ceux qui t'entourent. Tu as cette possibilité d'amener la vie autour de toi. Tu as cette possibilité d'amener le salut autour de toi. Tu as cette possibilité de répandre la vie éternelle autour de toi, si effectivement tu partages, tu sèmes, tu répands la nature de Dieu autour de toi. Lorsque tu te déplaces, mon frère, c'est Dieu qui se déplace avec toi. Lorsque tu vas au travail, ma sœur, c'est Dieu qui va au travail avec toi. Lorsque tu vas à l'école, c'est Dieu qui se déplace à l'école avec toi. Et là où tu es, là où tu te déplaces, c'est la vie de Christ qui se déplace avec toi. Avec toutes les facultés propres à la vie de Christ. Les disciples, à un moment donné, ont été arrêtés pour une raison toute simple. Parce qu'ils prêchaient la résurrection des morts en la personne de Jésus-Christ. Lorsque nous amenons la vie autour de nous, nous ressuscitons des morts. Spirituellement, c'est un fait, mais nous ressuscitons des morts. Lorsque nous amenons la vie autour de nous, nous permettons à un pécheur qui se destinait directement à l'enfer pour l'éternité, à rencontrer Christ, à avoir une vie transformée et à bénéficier de la vie éternelle pour l'éternité. Cette même grâce qui a été la tienne, cette même grâce qui est la mienne. On ne peut pas être égoïste, mon ami. On ne peut pas être égoïste, mon frère, ma sœur. Il est de notre devoir de répandre la vie autour de nous. Il est de notre devoir d'afficher la nature de Christ autour de nous. Il est de notre devoir de veiller à vivre à tous les jours un peu plus conformément à Dieu, conformément à sa parole. Et il y a un seul moyen d'y arriver, c'est si cette parole nous habite quotidiennement davantage. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu effectivement que la semence, cette parole en tant que semence, est le seul moyen, le seul outil que nous avons pour amener des fruits qui vont durer dans l'éternité. Mais on a vu de surcroît à cela que la parole de Dieu est à la base même de notre existence. Elle est l'essence de notre vie. Plus encore, elle est le moyen par lequel la nature de Dieu vient à habiter nos actions, nos paroles, nos comportements, nos agissements. Et enfin, on a vu que cette vie qu'amène la parole de Dieu, nous pouvons aussi la répandre autour de nous. Et assurément, dans des périodes comme celles qu'on peut vivre depuis maintenant 18 mois pratiquement, dans une période d'incertitude comme celle que nous avons traversée jusqu'à présent, assurément, Christ reste encore la source de vie nécessaire pour tous. Il est assurément encore aujourd'hui la réponse. Il est assurément le calme que nous avons encore tous besoin. Et ce calme, cette paix, vient de la nature même de Dieu que nous pouvons acquérir en étudiant, en méditant, en vivant la parole de Dieu. Alors, mon frère, qu'as-tu entre les mains? Tu as une semence et tu as une source de vie. Ma sœur, qu'as-tu entre les mains? Lorsque tu prends ta Bible, tu as la semence qui permet de porter des fruits éternels et tu as cette source de vie qui peut transformer l'existence de tes proches. Alors maintenant, on va prier. On a environ une quinzaine de minutes qui nous restent. On va prendre juste un temps pour prier suite à ce qu'on a vu aujourd'hui. Je vous invite à me suivre. Je vais diriger une prière, oui, mais si le Saint-Esprit vous guide ailleurs, assurément, laissez-le vous guider. Mais si vous manquez un peu d'inspiration, tout simplement me suivre dans ce temps de prière. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour tout ce que ta parole représente pour nous. Ce qu'on comprend, tout comme ce qui nous est encore caché, ce qu'on a pleinement saisi, mais qu'on a peut-être négligé. Merci, Seigneur, de ce temps que tu prends pour nous ramener à l'ordre, pour nous rappeler l'importance de ta parole. Je prie, Seigneur, pour ma propre personne, mais je prie, Seigneur, qu'il en soit ainsi pour ma sœur et mon frère, qu'on ne puisse plus négliger ta parole, sachant combien elle est importante et ce qu'elle représente pour nous, mais aussi pour l'avancement de ton royaume. On comprend, Seigneur, que si tu places cette semence qu'est ta parole entre nos mains, c'est donc pour qu'on fasse quelque chose avec, pour qu'on puisse la partager, pour qu'on puisse la répandre autour de nous. Seigneur, pardon pour tout ce temps qu'on a perdu en n'étant pas les témoins que tu voulais qu'on soit. Pardon, Seigneur, pour ces mois, ces années. Pardon, Seigneur, de ne pas avoir utilisé même cette pandémie pour faire davantage de travail. Les gens étaient assurément plus ouverts, plus disposés peut-être à entendre. Et Seigneur, peut-être qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire. On s'est isolé sur nous-mêmes et on a gardé cette parole pour nous. Seigneur, nous comprenons que nous ne pouvons pas récolter de fruits à moins que nous fassions notre travail de semeur. Seigneur, permets-nous d'être saisis par cette pensée dorénavant, qu'à chaque jour, lorsque nous nous levions, nous puissions avoir cet objectif bien défini, de propager ta parole autour de nous, de partager ta parole autour de nous. Seigneur, on comprend que ta parole est l'instrument principal de notre travail. Quel est l'instrument le plus précieux de notre travail? En fait, tu nous dis même, Seigneur, que cette parole a été faite chair et que cette parole était Christ. Seigneur, jusqu'à quel point négliger ta parole ne serait pas aussi négliger notre Sauveur? Jusqu'à quel point ne pas faire notre travail avec cette parole ne serait pas différent que de négliger notre Seigneur? Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Et merci de nous donner l'occasion de nous mettre à l'œuvre. Merci de nous donner encore le souffle de vie afin que dès ce soir, voire demain matin, nous puissions reprendre notre rôle de semeur qui va répandre la semence partout où il marche. Seigneur, on comprend qu'on ne peut pas rester à l'intérieur de l'Église pour semer. Le champ ne se trouve pas à l'intérieur de l'Église. Le champ se trouve à l'extérieur. Les terrains qui ont besoin d'être ensemencés par ta parole se trouvent à l'extérieur. Seigneur, jusqu'à quel point on est peut-être devenu religieux? Jusqu'à quel point on a peut-être agi égoïstement? Jusqu'à quel point, Seigneur, on a peut-être fermer l'oreille à ta parole qui nous disait de sortir et d'aller faire de toutes les nations des disciples. Seigneur, tu as utilisé la persécution pour faire en sorte que l'Église primitive puisse se répandre au-delà de Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Peut-être, Seigneur, voulais-tu utiliser cette pandémie pour qu'il se fasse la même chose? Je prie, Seigneur, que lorsque tu regardes le travail qu'on aura fait durant ce temps de pandémie, celui-ci soit agréable à tes yeux et qu'il t'amène, Seigneur, un fruit jusque dans l'éternité. Seigneur, on comprend qu'on ne peut pas garder la parole pour nous-mêmes. Le semeur ne récoltera jamais de fruits s'il ne partage pas sa parole, s'il ne partage pas sa semence. Seigneur, nous ne récolterons jamais de fruits si on garde la parole strictement pour nous. Donne-nous, Seigneur, l'occasion. Donne-nous l'hardiesse. Donne-nous les circonstances. Donne-nous les rencontres. Amène-nous près des gens où tu veux qu'on parle et qu'on répande ta parole. Seigneur, on a aussi vu que cette parole est source de vie. Notre existence n'est pas le fruit des circonstances, n'est pas le fruit de l'environnement dans lequel on est né. Notre existence est le fruit de ta pensée, de ta parole à notre égard. Tout ce qui existe a été créé par ta parole, nous y compris. Seigneur, ma vie n'est pas le fruit du hasard. Ma vie est le fruit d'un Créateur qui avait pensé, qui désirait mon existence. Je prie, Seigneur, que ma sœur saisisse que sa vie est due à la parole que tu as prononcée à son égard, à l'appel que tu as prononcé à l'égard de sa vie, au don que tu as proclamé sur sa vie. Son existence, Seigneur, elle la doit à toi. Il en est de même pour mon frère, Seigneur. Son existence, il la doit à toi. Je prie, Seigneur, pour chacun d'entre nous, que nous menions l'existence à laquelle tu nous as appelés, pour laquelle tu nous as créés, pour laquelle tu as prononcé notre nom. Seigneur, je comprends aussi que c'est à travers cette semence que tu as placée en nous que ta nature vient à s'extérioriser à travers nous. Je comprends, Seigneur, que plus je veux que ta nature m'habite, plus je veux que ta personne m'habite, plus je dois me nourrir et être habité par ta parole. Seigneur, si on veut effectivement être de dignes représentants de ton royaume, il faut donc que la nature même de Christ nous habite. Et celle-ci, Seigneur, vient avec ta parole. Nous tenons, Seigneur, ce que nous sommes de nos parents du point de vue charnel. Mais spirituellement, nous tenons ce que nous tenons de toi à travers ta parole. Seigneur, si je veux que tu habites davantage en travers moi, si je veux que ta vie se répande davantage à travers moi, encore faut-il, Seigneur, que ta parole habite en moi. Je prie, Seigneur, que ma nature cède le pas à ta nature. Je prie que ma volonté, comme Job disait, qu'il avait plié sa volonté à la parole qui sortait de ta bouche. Je prie, Seigneur, qu'il en soit de même. Seigneur, je dépose ma volonté à tes pieds, afin que celle-ci se plie aux paroles de ta bouche. Seigneur, je comprends aussi que cette parole qui est source de vie pour moi peut aussi être source de vie pour ceux qui m'entourent. Lorsque je répands ta parole, je répands ta vie autour de moi. Seigneur, tu as placé en chacun d'entre nous cette capacité à changer la vie éternelle de ceux qui nous entourent. Tu nous as lancé le défi de changer la vie éternelle de ceux qui nous entourent, de les épargner d'une vie où ils seraient chassés de ta présence pour toujours et de les introduire à ta présence pour l'éternité. Seigneur, nous avons cette bénédiction en nous. Nous avons cette grâce en nous. Et lorsque nous répandons ta parole autour de nous, c'est ta vie que nous répandons. Alors je prie, Seigneur, qu'il ne reste plus aucun timide parmi nous quant à ta parole. Je prie, Seigneur, qu'il ne reste plus aucune gêne en nous par rapport à ta parole. Mais je prie, Seigneur, qu'un esprit d'hardiesse nous saisisse, comprenant quelle est la lourde responsabilité que nous avons, mais aussi quel est le merveilleux mandat que tu nous accordes de pouvoir semer, afin, Seigneur, de ramasser du fruit, afin de récolter un fruit, d'amener la vie autour de nous, afin d'éviter la condamnation pour l'éternité à ceux qui nous entourent. Seigneur, utilise-nous. Je prie, Seigneur, pour la parole que nous avons partagée ce soir. Je prie, Seigneur, qu'elle puisse être arrosée par ton onction, arrosée par ton esprit, qu'elle puisse s'enraciner profondément en nous, apporter les changements, les transformations qui se doivent dans nos actions, dans nos paroles, dans nos réactions, dans notre attitude de tous les jours, afin, Seigneur, qu'on ne soit plus à même d'entendre quelqu'un qui nous dise « je pensais que tu étais chrétien », mais que dans mes actions, il puisse voir Jésus. Qu'à travers mes paroles, ils puissent entendre Jésus. Qu'à travers moi, ils puissent ressentir Jésus. Merci Seigneur pour cette parole. Merci pour cette soirée. Merci pour ce mois axé sur ta parole. Instruis-nous. Parle-nous même durant notre sommeil. Change-nous, transforme-nous. Et que ta grâce nous soutienne. Nous t'avons prié dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Alors, mes frères et mes sœurs, voilà comment on arrive à un terme quant à l'étude de ce soir. On se retrouve demain matin pour la prochaine bénédiction matinale. Je vous ai déjà dit qu'il se pourrait que je ne sois pas là. Si je ne suis pas là, je mettrai un petit mot sur Facebook pour vous dire que j'ai eu un contretemps. J'ai un petit traitement demain qui se passe à l'autre bout de la ville, donc ça se pourrait que ça soit un peu compliqué d'être là à l'heure. Sinon, on se reprendra vendredi. De surcroît cela, la première vague d'appels pour confirmer les inscriptions pour l'Assemblée de dimanche a déjà eu lieu. Donc, tous ceux qui se sont inscrits depuis ce midi, vous êtes dans la deuxième vague d'appels qui va avoir lieu vendredi après-midi. Donc, il y a encore de la place. Plusieurs de nos fidèles sont allés en vacances, sont à l'extérieur, donc il y a de la place pour un bon nombre d'entre vous. Si vous voulez assister à l'assemblée en présentiel ce dimanche, donc vous nous appelez sur le répondeur de l'église ou vous nous envoyez un courriel. C'est pas un message Messenger, c'est pas un message Facebook, c'est vraiment un message sur notre courriel et vous nous dites que vous voulez assister à l'assemblée de dimanche. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée, soyez remplis de la parole de Dieu, qu'elle vous habite et qu'elle vous utilise. Que Dieu vous bénisse à tous. Au revoir tout le monde.